18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Vous êtes sur Radio U, c'est vous qui le dites qui commence, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U. Écologie et culture, c'est notre programme de ce soir. Nous recevrons Emma Fourreau et Iris Domain de l'association Sans Océan, une association de sensibilisation à la protection des océans et de la vie marine. Née du constat de ces deux créatrices, la crise écologique s'est installée dans le débat public et dans les consciences de chacun et de chacune. Mais que les problématiques liées à l'océan demeuraient un angle mort. À travers leurs vidéos et leurs publications, elles rendent compte et informent de l'actualité écologique, de l'état des océans et de la condition animale. Mais on commence avec une exposition, oui oui, une exposition. Concert annulé, théâtre annulé, expo annulé. La longue litanie des annulations de ces derniers mois a de quoi déprimer tous les amoureux de la culture et tout le monde tout court. C'est donc toujours un plaisir pour nous en ce moment de pouvoir vous proposer de découvrir une initiative culturelle locale. Aujourd'hui, une exposition en plein air. Cécile Morel, directrice du service culturel de l'Andivisio, vient nous présenter le parcours d'installation artistique mis en place hors les murs dans la ville de l'Andivisio. Cécile Morel, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler ensemble les missions du service culturel de l'Andivisio ?
Alors, donc on est un service de la mairie avec tout le panel de l'offre artistique en direction de tous les publics. Donc, il y a le spectacle vivant à la salle du Vallon. Il y a l'espace Lucien Prigent qui est le lieu, qui est un manoir dans un parc qui accueille des expositions, trois à l'année en temps habituel. Il y a l'école de musique, il y a les cours d'art plastique, il y a la partie patrimoine, il y a évidemment la bibliothèque avec toutes les propositions autour du livre et de la lecture. Il y a la fête de la musique, et le festival Mots les mots qui est pour nous un temps fort autour de la poésie et de la parole poétique.
Vous intervenez sur la commune de l'Andivisio, est-ce que vous intervenez également sur les communes environnantes ?
Alors, ça peut nous arriver sur des projets en partenariat, mais à la communauté de communes, il y a également un service culturel qui travaille en direction des scolaires essentiellement.
Comment s'articule justement votre travail avec la communauté de communes ?
Alors, on essaye de se voir de plus en plus régulièrement. On monte des projets communs, notamment autour de la programmation. La programmation des spectacles qui se fait alors sur... on va dire deux ou trois spectacles à l'année où eux proposent en scolaire, donc maternelle, primaire, éventuellement collège. Et nous, on propose ces séances en direction du tout public avec des ateliers, des passerelles, des rencontres.
Est-ce que vous pensez que travailler, développer des projets culturels dans une zone rurale plus étendue amène des spécificités pour un service culturel ?
Alors, je pense que... Enfin, je crois qu'il y a une identité qui se crée, hein, des repérages auprès du public. Et puis, c'est aussi notre façon à nous d'accompagner des différents projets, de les porter. C'est évident qu'un spectacle ne va pas drainer que des Landivisiens, évidemment. Il va drainer des gens, bien sûr, de la communauté de communes, mais bien au-delà. Il peut nous arriver sur des choses vraiment très, très pointues, d'avoir des gens qui viennent de Brest, de Morlaix, mais aussi de Rennes, de Nantes, notamment autour de la poésie dont je parlais tout à l'heure, qui est un petit peu notre identité, notre marque de fabrique.
On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre du parcours d'installation artistique que vous proposez en ce moment jusqu'au 2 mai à l'Andivisio. Mm-hmm. On va discuter ensemble juste après des œuvres présentées dans ce cadre. Mais comment est né ce projet ? Est-ce qu'il est en lien notamment avec le salon de la sculpture qui malheureusement ne peut pas se tenir cette année ?
Oui, alors le salon effectivement il existe depuis plus de 30 ans, donc c'est un petit peu une tradition à l'Andivisio. Tous les ans, l'association des sculpteurs de Bretagne vient dans la mairie, donc il n'est pas un lieu d'exposition mais qui en devient un le temps de ce temps fort. Et donc chaque année, il y a un lauréat et le lauréat expose dans le lieu dont je parlais tout à l'heure, l'espace Lucien Prigent, qui est vraiment un lieu dédié aux expositions. Il se trouve que cette année, on n'a pas voulu prendre le risque, là au printemps, de reconduire une exposition qui risquait d'être annulée. Malheureusement, on a connu ça sur l'exposition précédente qui était prévue au printemps 2020, qui a été repoussée à l'automne 2020, qui a été installée, montée. Et au bout de 3 jours fermé. Donc on n'a pas pris ce risque-là et on s'est dit, bon, voilà, cette année on fait différemment. Et depuis quelques années, on avait déjà commencé à lancer un appel à projet pour, en parallèle du salon de sculpture, pouvoir donner la possibilité à des sculpteurs donc jeunes, ne faisant pas partie de l'association Sculpteurs Bretagne, d'exposer leur travail, en général une création, une œuvre spécifiquement pour le lieu. Et cette année, on s'est dit que plus que jamais, il fallait le mettre en avant. Donc, on a à nouveau lancé cet appel à projet, donc qui est diffusé Alors bien sûr au niveau du Finistère, de la Bretagne, mais bien au-delà, puisqu'on a eu des réponses d'un petit peu partout. Et on a eu 50 retours de plasticiens en fait qui nous ont fait un projet en lien avec les lieux, parce que c'est vraiment un lien, c'est vraiment un projet autour d'un lieu en particulier. Et donc on a voilà autour du jury. Alors on fonctionne évidemment au coup de cœur. Hein, ça c'est un petit peu le moteur dans la programmation culturelle. C'est voilà on ne porte bien que ce qu'on aime. Enfin c'est comme ça que j'imagine les choses. Et donc on se réunit avec l'adjoint à la culture, avec Madame le maire. Et là on fait le point sur les différents dossiers. Et il se trouve que cette année vraiment nos avis convergeaient. On a été unanimes.
Parmi ces œuvres, vous en avez donc sélectionné quatre. Mm-hmm. Donc c'est autour de ces quatre œuvres que s'articule le parcours artistique. Est-ce que vous pouvez nous les présenter justement?
Oui. Alors donc il y a quatre lieux, quatre artistes et assez. Alors on l'a pas fait volontairement, mais assez de manière assez amusante. On a aussi quatre façons de travailler différentes, puisque l'un travaille le bois, l'autre travaille le PVC, d'autres. C'est un collectif en fait à travailler autour du fil hein, de la broderie et la dernière c'est du fil de fer. Donc ça c'est assez amusant, c'est le hasard, mais c'était aussi intéressant de montrer des techniques différentes. Hein. Donc sur les différents lieux, on a l'espace Lucien Prigent qui est donc un manoir situé dans un parc très 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 agréable, vraiment un petit écrin au cœur de la ville et c'est on a choisi de retenir Nico Radatz, qui est un artiste alors je vous disais que les gens venaient d'assez loin, donc il vient des Landes. Il se trouve qu'il est d'origine allemande, mais qu'il vit dans les Landes. Et il a créé vraiment quelque chose pour le lieu, donc il a été en résidence, en fait, à Landivisio pendant une semaine complète. Où dès le lundi matin, il a pris possession de l'endroit. On lui a laissé les clés du château. J'aime bien dire ça aux artistes. Et il est arrivé avec une minuscule voiture. Donc parce que c'est une installation avec des grands tuyaux de PVC, mais assez immense, plus de 3 mètres chacun. Et il avait une minuscule voiture. Et en fait, c'était complètement enroulé. Et il a tout déroulé et il a créé un bouquet de alors il ça fait quand même un grand bouquet de fleurs assez majestueux qui vient se poser sur ce d'une fenêtre à l'autre en fait de haut en bas sur le manoir. Et la symbolique est très belle puisque donc c'est un bouquet très coloré du vert, du bleu, du jaune, etc. Donc évidemment les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ça peut paraître un peu fleur bleue, mais au contraire c'est pour lui voilà symbole de d'harmonie, de paix et de bienveillance. Et c'était aussi une façon de faire le lien. Alors moi je l'ai vu comme ça parce que forcément on s'attache aux artistes avec qui on travaille. Et juste avant donc je parlais d'une exposition qui avait été annulée, qui était l'exposition d'une peintre hein, qui s'appelle Maëlle Labussière et qui fait un travail vraiment très très coloré, très joyeux, très vif et qui malheureusement n'a pas été vue par le public. Donc c'était aussi une façon de faire sortir la couleur dans ce parc et donc c'est visible de très loin et c'est vraiment voilà, ça attire l'œil forcément. Et puis c'était aussi une façon d'un point de vue écologique de montrer que là actuellement on vit dans l'ère du plastique. On a eu l'ère du bronze, l'ère du fer et là on est dans l'ère du plastique et donc du PVC. Bon, c'était intéressant d'avoir cette vision là et qui amène à voir notre environnement différemment.
Vous proposez aussi également une œuvre Trois tisseuses de liens mm-hmm. à la fontaine Saint-Ivisio, c'est ça?
Alors là, c'est le coup de cœur, je crois, du public. Hein. C'est vraiment quelque chose qui connaît un succès assez impressionnant. Alors, c'est amusant de voir à quel point les gens intègrent ça dans leur balade et le diffusent sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, on a rarement eu autant de retours hein, et de photos. Donc, alors, les Trois tisseuses de liens, c'est trois femmes, deux brodeuses et puis une lissière hein, d'Aubusson qui donc travaille tout le tissu. Alors là elles ont récolté des napperons et avec ces napperons là elles ont fait des installations de robes qui sont majestueuses, elles sont vraiment splendides et elles s'accordent parfaitement avec le lieu puisque c'est un ancien lavoir, c'est le cœur historique de Landivisio et donc c'est l'endroit évidemment de toutes les parlottes et de toutes les discussions des femmes qui au début du siècle venaient laver leur linge à cet endroit-là. Et donc, c'est un très bel hommage. C'est vraiment très, très doux, très poétique, très, très émouvant. Puis elles ont aussi représenté des gouttes qui symbolisent à la fois la pénibilité du travail et puis les larmes des histoires qui devaient se raconter autour de ce lavoir. C'est vraiment à voir. C'est très, très beau.
On va revenir, il y a encore deux heures, ouais. Mais finalement, ces expositions, on a quand même, enfin, ces œuvres, on a aussi l'impression que c'est une manière de mettre en avant le patrimoine et de l'histoire,
ouais,
finalement, de l'Indivisio.
C'est ça, et puis c'est aussi une façon, pour les gens qui passent là tous les jours, de voir les choses différemment et de porter un regard neuf sur leur quotidien.
Vous proposez également une artiste, Jenny Fauvette, mm-hmm. au Parvis Yves Keguiner.
Ouais. Alors là, c'est donc vraiment en centre-ville, sur la place, on va dire la place du bourg, enfin si on peut dire là où se passe le marché. Et donc c'est deux oiseaux filaires qui dansent le flamenco, qui sont très très doux, très poétique aussi. Ils sont très fins, en fil de fer noir, avec leur bec bleu et doré. Et on les devine à peine, tellement ils sont légers. Mais ils sont en même temps très majestueux. Même si ça a été compliqué d'un point de vue technique. Et là, on remercie nos collègues à chaque fois parce qu'ils font un sacré boulot, les gars des espaces verts ou d'autres services, pour venir nous donner un coup de main au service culturel pour faire les installations. Et donc c'est une très jolie installation qui vole un petit peu au vent. Enfin voilà, on a l'impression que ces oiseaux là, ont envie de prendre leur envol et ils se sont posés chez nous.
Et enfin, une œuvre à l'Hôtel de Ville, une œuvre de Marc Georgeau, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Marc Georgeau qui vient de Rennes et qui travaille, lui, le bois et qui a réalisé des fourmis géantes. Alors c'était un petit peu le coup de cœur de Madame le maire qui aimait bien cette idée-là d'avoir sur la mairie une représentation des agents de la ville qui bossent. Et donc cette petite fourmilière-là. Et donc il y a trois grosses fourmis qui se reflètent, qui sont installées sur un mur à côté de la mairie qui est vitré. Et donc il y en a vraiment trois, des fois on a l'impression qu'il y en a six, neuf, en fonction de la luminosité. Et elles sont à la fois impressionnantes, drôles, et puis là aussi elles invitent à lever les yeux et à voir les choses autrement.
Vous l'avez précisé tout à l'heure, ces artistes, c'est pas forcément des artistes avec lesquels vous travaillez d'habitude dans le cadre du Salon de la Sculpture. Est-ce que c'était une manière aussi de soutenir la démarche de jeunes artistes ou d'artistes émergents qui peuvent pas forcément exposer en ce moment?
Tout à fait. En fait, c'est cet appel à projet-là, on l'a mis en place pour faire un petit peu le lien avec donc cette association de sculpteurs qui existe depuis très longtemps. Et puis, on avait envie de l'ouvrir et de donner la parole à des artistes dont le travail n'est pas encore forcément très connu, mais qui ont cette première possibilité, ou sans dire que ça commence à l'Indivisio, hein, mais parfois ça peut arriver. En tout cas, voilà, donner la possibilité de montrer leur travail, et puis aussi redonner une dynamique, parce que certains d'entre nous, notamment, je pense à Nico Radatz, qui est venu installer sur le parc, même physiquement, pour lui, en fait, il avait pas travaillé depuis un an, et en fait il avait des courbatures partout parce que il s'est rendu compte que même son corps physiquement n'était pas dans le même mouvement qu'habituellement, ce qui est quand même assez fou. Et donc bon, il était évidemment ravi d'avoir été sélectionné. Et surtout, ce qui est important aussi pour eux, c'est que ça leur donne une visibilité. Et on sait très bien, là, voilà, vous avez aussi été regarder les infos un petit peu sur ce qu'on peut faire passer sur les réseaux. En fait, c'est des vitrines pour eux. Et donc, même si ce travail-là, cette installation à l'Indivisio, dans le Finistère, dans une petite ville de 9000 habitants, ne correspond pas forcément à des projets plus ambitieux qu'il peut avoir, peut-être qu'on se dit que finalement, les images qui ont été faites, qui sont très belles, vont lui servir après de carte de visite, en quelque sorte. Et de ça aussi, c'est notre boulot, en fait, je pense, d'ouvrir les portes et puis de permettre d'aller voir plus loin ensuite.
Est-ce qu'il y a quelques actions de médiation prévues autour de ce parcours artistique?
Alors, on a fait un vernissage déambulatoire, puisque maintenant on peut plus se, enfin voilà, en tout cas en ce moment on se pose pas tous autour d'un verre pour continuer à discuter. Donc chaque artiste est venu présenter son travail et c'était drôlement intéressant. Et puis on va imaginer, dans la mesure du possible, des temps. Alors en respectant évidemment les décrets et puis les pas de rassemblement de plus de 6 personnes, et ben on va faire autrement, on va faire plusieurs rassemblements de 6 personnes et on va s'en amuser un petit peu dès la semaine prochaine. C'est le printemps des poètes, enfin c'est en ce moment le printemps des poètes, et avec une comédienne et puis un musicien du territoire également, on va imaginer des petites visites flash où on sera pas non pas en groupe de 40-50 mais plusieurs petits moments un peu privilégiés, comme une ordonnance une thérapie de groupe, où on va se nourrir de poésie et c'est peut-être encore plus nécessaire que d'autres choses.
Oui, ça va faire du bien, je pense. On parlait de vos missions il y a quelques minutes. On sait que le monde de la culture est particulièrement touché par la crise sanitaire. Comment ça a impacté votre travail au quotidien, à vous, en tant que service culturel?
Ouais. Alors, on va dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le premier confinement du printemps dernier, où là, on a eu l'impression de tomber d'un train, en fait. Pour nous, tout roulait, tout avançait. On avait le public, les missions étaient claires et c'était ça roulait. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu le sentiment, je parle à titre personnel, qu'on me dise écoute, là la culture c'est pas la priorité du tout, donc tu attends, là tu descends du train, tu attends et puis on verra plus tard. Ok, et à un moment il a fallu remonter dans le train et puis se dire finalement ok, faut qu'on avance quand même, mais on sait pas comment, donc on navigue à vue. Après, d'un point de vue professionnel, donc il y a beaucoup de réorganisation, de planning, de comment on fait les choses, de comment et qu'est-ce qu'on peut faire. Après, d'un point de vue administratif, bêtement, c'était alors les cours de musique sont annulés, ok, d'accord, il faut rembourser. Donc ça a été beaucoup de mise en place en fait de choses pratico-pratiques sur des histoires de logiciels et de où là on a découvert les uns et les autres en disant ok, on n'a jamais fait ça, mais on le fait. Et puis mettre en place pour la bibliothèque un système de drive, donc après les quarantaines et après toutes les ce qui maintenant est devenu quasiment quotidien et qu'on fait tout à fait presque normalement, le gel, les masques, etc. On a mis ça en œuvre. On a eu espoir d'une reprise en septembre, donc on avait vraiment travaillé sur la communication, sur nos plaquettes de communication, sur et puis après il faut gérer les reports, les annulations, enfin un petit peu comme partout, mais il faut garder surtout l'enthousiasme, et ça c'était absolument essentiel parce que on avait aussi beaucoup d'artistes au téléphone qui nous, il se trouve qu'on a quand même une situation privilégiés, sur des métiers comme les nôtres. Et on a aussi, nous, notre rôle à jouer sur l'accompagnement. Et c'est important.
Et justement, comment vous les accompagnez, ces artistes et ces structures culturelles de l'Andivisio, dans cette crise?
Alors, on accueille en résidence beaucoup depuis le mois de janvier. Donc, c'est-à-dire que les artistes viennent travailler au Vallon. Donc, qu'ils soient danseurs, musiciens, chanteurs, comédiens. Et puis, donc, on met à disposition les espaces de scène. Donc c'est vraiment un prêt de plateau ou un prêt d'espace de travail. Et puis on se rencontre aussi beaucoup sur les projets à venir. C'est important d'avoir une écoute, de prêter l'oreille et puis le regard. Et donc on essaye au maximum d'être présent et puis surtout de construire.
J'ai vu que vous proposiez il y a quelques temps, notamment sur le Facebook du service culturel de l'Andivisio, un projet de collecte autour du costume traditionnel. C'est à l'initiative de plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet?
Alors ça aussi c'est passionnant parce que je pense que c'est probablement quelque chose qu'on n'aurait pas fait autrement. On a été sollicité pendant le confinement, où je pense que les gens, on a eu tous un temps différent et on a pris le temps de regarder des dossiers qu'on aurait peut-être laissé passer. Et c'est l'association des danseuriennes L'Andivisio, donc une association de danse bretonne, qui nous a sollicité en disant qu'avec la confédération Kenler, qui est une confédération qui réunit les différents cercles celtiques, ils avaient un projet de récolter des photos anciennes, donc d'avant 1930, pour en faire une exposition à ciel ouvert en grand format. Donc l'idée était sympa, on s'est rencontrés avec également la communauté de communes, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc on a monté ce projet-là qui va prendre forme au mois de mai. La communauté de communes va exposer des photographies donc qui ont été tirées en très grand format sur des bâches sur les différents lieux de la commune. Et nous, à L'Andivisio, donc qui est la commune centre, on va donc le graphiste de la Confédération Kenler va reproduire des photos qui ont été collectées par le cercle celtique. Ils ont alors au départ il y avait un petit peu, ils savaient pas trop ce qu'ils allaient avoir, et ils ont passé leur temps en rendez-vous parce qu'évidemment quand on ouvre les tiroirs, et ben on trouve plein de choses, et donc l'idée c'était de pouvoir aussi mettre en valeur le patrimoine vestimentaire des années 30, hein, et ça va être donc tiré en très très grand format et colorisé pour faire une exposition qui portera le nom de Liviu. On aimait bien cette idée de voilà, on peut y mettre plein de choses et ça veut dire couleur en breton, et donc c'est aussi une autre façon de porter le regard sur notre quotidien.
Est-ce que d'autres projets sont en cours en ce moment avec le service culturel de l'Andevise?
Oui, on a donc ces petites, je dis petites parce que j'aime bien l'idée de petits groupes et puis d'intimité, d'avoir un petit peu cette idée de privilège. On va avoir des temps musicaux, des temps poétiques, hein, qu'on va essayer de faire en extérieur au maximum. On continue à accueillir donc en résidence et donc à faire des sorties de résidence, et ça c'est important. On essaie de faire en sorte que les gens se rencontrent, puissent en parler, et puis faire des retours aux artistes qui vont préparer les saisons à venir. Et on a une exposition de photos, donc parallèlement à l'exposition de collage en extérieur, on a aussi une exposition en lien avec d'autres associations sur la thématique du cheval, avec une photographe qui s'appelle Aïcha Dupois de Guitare, qui est de Landévennec, hein, qui a un très très beau regard sur à la fois l'endroit où elle vit et puis cet animal qui n'est pas j'ai pas le mot. En tout cas, il y a à l'Andevise une maison familiale rurale, hein, qui prépare les jeunes au métier de l'équitation et du cheval. Et donc, on a fait tout un travail aussi en lien avec des auteurs, des artistes qui sont intervenus dans les écoles. On travaille avec les lycées, on fait des propositions. Et puis, toute la saison prochaine qui va être dense, puisqu'on a beaucoup de reports, évidemment, de ce qui n'a pas eu lieu. Et puis, évidemment, plein de nouveaux projets, dont le festival Moi les mots, qui est consacré à la parole poétique, et où on accueillera des slameurs, des plasticiens, des auteurs, des illustrateurs, pour des moments de partage, d'ateliers, de rencontres, d'échanges, enfin voilà, tout ce qui fait le sel.
Cécile Morel, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venue nous présenter donc toute cette programmation culturelle, et particulièrement cette exposition, enfin ce parcours un peu à travers l'Andivisio pour à la découverte de sculptures, une exposition qui le rappelle, hein, se tient à l'Andivisio hors les murs jusqu'au 2 mai prochain, l'occasion de se balader, de découvrir le travail de sculpteurs, de découvrir au passage quelques lieux emblématiques de l'Andivisio, l'hôtel de ville, le Paris Yves Keguiner, la fontaine Saint-Ivisio et l'espace culturel Lucien Prigent. Merci encore.
Merci beaucoup.
Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur le site le-vallon.fr, le site du service culturel de l'Andivisio, ou sur leur page Facebook.
Merci.
Vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U.
Foi um forte temporal e a
l'instant, c'était Georges Été da Mocidade, Chuva na Favela sur le 101.1 FM. Nous recevons maintenant Emma Fourreau et Iris Domain de l'association Sans Océan, une association de sensibilisation à la protection des océans et de la vie marine. Née du constat de ces deux créatrices, la crise écologique s'est installée dans le débat public et dans les consciences de chacun et de chacune. Mais les problématiques liées à l'océan demeurent un angle mort. À travers leurs vidéos et leurs publications, elles rendent compte et informent de l'actualité écologique, de l'état des océans et de la condition animale. Pour en discuter avec nous, Emma Fourreau et Iris Domain de l'association Sans Océan. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
J'ai lu que vous vous étiez rencontrées au sein du média indépendant Le Vent se lève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rencontre et peut-être un peu sur ce média aussi ?
Oui, alors effectivement, on s'est rencontrés lors d'un événement organisé par ce média à Rennes.
Donc effectivement, comme dit Iris, on s'est rencontrés par le biais de ce média d'opinion indépendant qui travaille sur des questions à la fois sociales, écologiques, de souveraineté. Mais on voulait vraiment travailler beaucoup plus la question écologique et également centrer sur la question des océans. Et c'était un angle qu'on trouvait mort au sein de ce média. C'est pourquoi on a décidé de fonder Sans Océan, qui à l'origine était un média pour ensuite devenir une association. Mais c'était vraiment en partant du constat que même dans les journaux qui prennent en charge la question écologique, la question n'était pas assez creusée selon nous, n'était pas assez abordée de manière radicale. Et c'est pour ça qu'on a fondé Sans Océan.
C'est votre parcours aussi qui vous a amené à ça ?
Effectivement, il y a deux choses qui m'ont menée vers Sans Océan et cet engagement. Déjà, j'avais un engagement auprès d'L214, donc un engagement déjà pour les animaux, mais on traite surtout la question de l'élevage, et c'est une question qui est très importante, et souvent la partie poisson-océan est laissée de côté. Alors, je ne parle pas spécifiquement d'L214 parce qu'il traite également la question, mais on voit dans les médias et dans la plupart des associations le fait qu'on mette la focale que sur les animaux terrestres, peut-être aussi parce qu'ils nous ressemblent plus, et beaucoup moins sur les océans. Et c'est quand vraiment on creuse le sujet qu'on se rend compte que c'est le plus grand organe régulateur du climat, et que ça, on ne l'entend pas. On entend beaucoup parler de la forêt amazonienne en tant que poumon vert de la planète, et on occulte ce poumon bleu. Et c'est aussi effectivement à travers mes études, parce que je suis à l'IEP de Rennes, et donc je suis des cours en rapport avec le droit environnemental. Je suis actuellement en troisième année, donc à l'étranger, et donc j'ai choisi une université suédoise parce que ils abordent beaucoup cette question de l'environnement, et notamment à travers les aires marines protégées. Donc comment est-ce qu'on met en place des législations pour protéger les océans ? Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les législations ne sont pas appliquées, ne sont pas assez ambitieuses.
Iris, de votre côté aussi, c'est votre parcours universitaire ou personnel qui vous a conduit à la création de Sans Océan ?
Alors oui, donc déjà à titre personnel, géographiquement, donc je viens de Brest, j'ai un peu cet ADN maritime et cette sensibilité depuis toute petite, cet émerveillement face à la biodiversité, à la richesse des côtes bretonnes. Donc déjà j'ai eu cette sensibilité assez jeune. Et par la suite dans mes études, j'ai travaillé j'ai fait des études de communication et j'ai travaillé dans une ONG notamment une grande ONG française au service de l'environnement, si on peut dire ça comme ça, et dans des médias engagés qui m'ont encore plus sensibilisée. Mais comme dit Emma aussi, ce qui nous a marqué, ce qui nous a donné cette envie de créer l'association, c'est que en fait, les problématiques liées à l'océan, on estimait qu'elles étaient pas assez représentées dans les débats sur la crise écologique, que la préoccupation pour la mer semble s'affaiblir dans ce que nous on a ressenti en tout cas, au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. Et que, comme Emma le dit aussi, l'océan est un espace d'une extrême richesse qui est abîmé dans ses abysses par l'extraction gazière, pétrolière, par la surpêche, par le braconnage, etc. Et que de toutes ces composantes, en fait, on a souhaité créer son océan pour en parler, pour informer, sensibiliser et dénoncer aussi certaines pratiques écocides quelque part.
Sans Océan, c'est une chaîne YouTube, c'est aussi un compte Instagram. Vous avez choisi plutôt le volet de la pédagogie, de la production de contenu.
C'est ça. On souhaite en fait informer, sensibiliser sur ce qui se passe, ce qui se trame loin de nos yeux. Par ce biais-là, on essaye de. Il y a aussi une certaine forme de vulgarisation dans notre contenu, je pense. À du contenu vidéo, format court, qu'on a eu l'habitude de proposer sur le compte Instagram notamment. On essaye en fait de sensibiliser le public qui nous suit, le grand public, et de développer un peu ces questions-là en fait. C'est, et aussi, bah voilà, l'enjeu c'est de le donner, enfin d'en donner l'accès à tout le monde, et pas seulement aux personnes qui vivent près des côtes, qui ont peut-être eux vraiment cette sensibilité-là, mais voilà, que tout le monde puisse se saisir de la question. Des enjeux, voilà, des problématiques que rencontre l'océan.
Les problématiques concernant la pollution, la préservation des espèces maritimes, elles sont multiples. La préservation des espèces, les pollutions plastiques par exemple. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés pour comprendre l'ampleur du problème ?
Alors par exemple, lorsque l'on parle de pollution plastique, on entend souvent parler de la lutte contre les déchets à usage unique, contre les pailles en plastique par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pailles en plastique, dans le monde, elles ne représentent que 0,03% du plastique dans l'océan, et que la véritable menace, elle vient des déchets plastiques, mais qui sont engendrés par l'industrie de la pêche. Donc on parle ici des filets de pêche, des filets fantômes qui sont laissés à la dérive dans l'océan. Et ça, par exemple, c'est 46% des déchets du vortex de déchets du Pacifique Nord, donc on appelle aussi le 7e continent. Et donc toute cette pollution plastique provient de la pêche. On peut donner d'autres chiffres également, par exemple le fait que l'équivalent d'un camion poubelle de déchets plastiques se déverse chaque minute dans les océans. Donc c'est difficile à imaginer, à se figurer ça. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres concernant la pollution. On peut aussi parler de la pêche et de la surpêche. Aujourd'hui, 80% des stocks de poissons commerciaux sont surexploités. Donc quand on parle de pêche durable, c'est très limité, parce qu'on se rend compte que toutes les espèces de poissons sont menacées par la pêche, et qu'aujourd'hui on a pillé l'océan et qu'il n'en restera bientôt plus. Certains chiffres sont terrifiants, et on parle que peut-être à l'horizon 2048, il n'y aura plus de poissons dans les océans.
Récemment, vous soutenez l'initiative citoyenne européenne Stop Finning, Stop the Trade. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors la campagne européenne contre le shark finning, on a lancé dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne Stop Finning, Stop the Trade, une campagne de sensibilisation sur du coup cette pratique qui est le shark finning. Donc pour rappeler un petit peu, c'est une pratique qui consiste à capturer en fait un requin en pleine mer pour lui prélever la nageoire caudale et les ailerons avant de le rejeter vivant, conscient et agonisant dans l'eau, puisque donc un requin a besoin de ses nageoires pour oxygéner ses branchies, pardon, sinon il coule et meurt dans la souffrance. Donc et les ailerons valent plus que le requin en entier. Donc voilà, c'est une pratique qui a lieu dans toutes les mers du globe. Et donc il y a une campagne qui a été lancée par une plateforme qui coordonne cette mobilisation à l'échelle de l'Union européenne, et qui appelle la Commission européenne à agir pour protéger réellement en fait les requins dans ces eaux. Donc nous on est partenaire de cette plateforme, et on a cet objectif là de rendre compte et de sensibiliser, parce que sur le cas par exemple du shark finning, il y a beaucoup de gens qui ignoraient que dans les eaux européennes, il y avait encore que l'Europe était encore aussi actrice de ce massacre par son aussi le fait qu'elle soit une plateforme de transit du commerce mondial du shark finning. Donc on est actuellement sur cette campagne là et voilà.
Vous le dites, Sans Océan est né un peu du sentiment que pour vous la question des océans était un peu laissée de côté dans la question écologique, mais c'est l'écologie, c'est quelque chose qui est un peu au centre du débat public. En tout cas, ça fait partie des problématiques au centre du débat public depuis 3-4 ans, et un peu en réponse aux mouvements sociaux de 2018-2019, le gouvernement a constitué une convention citoyenne pour le climat en octobre 2019. Ces 150 citoyens ont été tirés au sort, voilà, pour formuler des propositions. En juillet 2020, 149 propositions sont formulées. Le rapport est consultable en ligne sur le site de la Convention citoyenne pour le climat. Ça touche plein de domaines, le gaspillage alimentaire, les circuits courts. Ça touche aussi la pêche, l'information des consommateurs, par exemple, ou la reconnaissance du crime d'écocide. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que militante de cette convention, de ces propositions et de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui?
Eh bien, on partage aujourd'hui le constat de ces citoyens qui ont participé à cette Convention citoyenne pour le climat, qui ont donné au gouvernement la note de 2,5 sur 10 pour la loi climat qui va être présentée prochainement. Donc on pense que c'est une loi qui est en dessous de toutes les attentes, qui mise tout sur les effets d'affichage, d'annonce, mais qui en réalité masque un manque cruel d'ambition politique. Donc oui, il y a des mesurettes qui vont participer au greenwashing de la politique du gouvernement, mais à côté de ça... Il n'y a rien qui est remis en cause. Par exemple, la ministre de la Mer, Annick Girardin, est au courant des problématiques. Par exemple, là, on parle de la pêche qui capture également des dauphins. Donc, ce sont des prises accessoires. Et ça fait 30 ans qu'il y a ce problème. On estime aujourd'hui que c'est 11 000 dauphins qui meurent sur les côtes françaises par an. Et Annick Girardin a présenté cet engagement qui, en aucun cas, ne prend le problème à bras le corps. Donc, c'est bien de pondre une loi, de proposer... d'inscrire une phrase dans la Constitution, mais quand on regarde la politique globale du gouvernement, rien n'est fait pour enrayer les logiques productivistes qui aujourd'hui pillent les océans, pillent les forêts et à terme compromet la vie humaine sur Terre.
On a reçu cette semaine, mardi, les associations Youth for Climate et Green Vox 29 dans le cadre de la mobilisation nationale qui aura lieu le dimanche 28 mars. Une mobilisation qui appelle à une vraie loi climat. Vous allez participer à cette mobilisation ?
Alors pour ma part, malheureusement, je serai encore à l'étranger, mais sinon, ça aurait été avec grand plaisir que je me serais rejoint à ces manifestations.
Et de mon côté, oui, je m'y joindrai.
On a parlé de votre regard hein, sur le projet de loi climat porté actuellement par le gouvernement et qui sera proposé à l'examen des députés à partir de lundi prochain. Vous citez, j'ai lu, hein, vous citiez dans une précédente interview une étude parue dans la revue Nature le 1er avril 2020 qui s'appelle Rebuilding Marine Life, donc reconstruire la vie marine, qui avance qu'il est encore possible d'ici 30 ans de sauver les océans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette étude et sur de votre connaissance, expérience, quelles mesures fortes devraient être prises pour y arriver?
Eh bien, par exemple, actuellement, il y a des aires marines protégées qui sont mises en place. Mais le problème, c'est que sur ces zones-là, la pêche n'est pas interdite. Il y a très, très peu d'aires marines protégées qui interdisent la pêche. Donc déjà, ça, c'est une mesure phare qui serait que sur de larges zones protégées, on interdise la pêche pour permettre aux stocks de poissons, enfin, je parle de stocks, mais en réalité, ce sont des individus, mais pour leur permettre de reconstituer leur population, parce qu'aujourd'hui, ils atteignent des niveaux terriblement bas et on ne leur permet pas de se reproduire, de se régénérer. Donc pour nous, c'est vraiment par le biais surtout de la régulation de la pêche qu'on peut s'en sortir. Et donc effectivement, cette étude Rebuilding Marine Life, elle est porteuse d'espoir, parce que quand on regarde tous les chiffres, c'est effrayant et on se dit que c'est déjà trop tard. Mais si aujourd'hui on met les mesures en place, c'est possible, mais ça passe par des mesures fortes, drastiques, et il faut aussi qu'on soit capable de l'accepter, parce que c'est pour permettre de se sauver nous-mêmes en réalité.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, est-ce que vous pensez que déjà l'action individuelle a un poids? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire aussi à titre individuel sur cette question de la préservation des océans?
À titre individuel, il y a toujours donc se renseigner aussi. Il y a le renseignement sur sa consommation, notamment de poissons. Essayer de, si on consomme du poisson, consommer des espèces qui ne sont pas des espèces menacées, qui ne font pas partie de liste rouge d'espèces à protéger. Dans le cadre individuel, il y a une prise de conscience aussi par justement l'information, lire des rapports, lire des dossiers, se mouvoir aussi dans une association, se rendre bénévole pour dans un plan local autour de soi pour essayer un petit peu de se sensibiliser aussi soi-même à ce qui se passe autour de soi. Donc d'un point de vue individuel, j'imagine que c'est raison, enfin il y a de ça. Après Emma, peut-être autre chose à en dire.
Oui, à signaler peut-être qu'hier est sorti un très beau documentaire sur Netflix d'Ali Tabrizi qui s'intitule Seaspiracy, et c'est une très bonne façon, je pense, d'aborder les problématiques qui touchent les océans, puisque de nombreuses questions sont abordées, la pêche, la pollution, le fait qu'on tue les mammifères marins, et en quoi, en fait, ôter un prédateur de la chaîne alimentaire conduit à déséquilibrer tout l'écosystème. Et c'est un documentaire assez choc qui montre les dessous de l'exploitation des fonds marins, les problèmes de corruption, et c'est sorti donc le 24 mars. Et donc c'est un très bon documentaire, on pense, à aller voir, surtout qu'on est à quelques jours de la journée mondiale pour la fin de la pêche, donc même si on n'est pas contre la pêche, c'est toujours intéressant pour chaque citoyen, chaque citoyenne, de se renseigner au moins sur ce qu'il y a dans son assiette et sur ce qui se passe dans la mer.
Il y a aussi un livre qu'on peut conseiller qui est super complet et très très fort, qui s'appelle La jungle des océans, un livre d'un journaliste d'investigation américain, il me semble, Yann Urbina, qui a écumé les mers du globe pour enquêter sur la pêche illégale, sur l'esclavage, sur l'ultra-violence et sur les crimes, en fait, qui sont le quotidien des eaux internationales et qui sont en fait la norme en pleine mer. Donc c'est un livre très saisissant, en fait, sur les pratiques de pêcherie notamment, mais au-delà de ça, de tout ce qu'implique l'industrie des pêches.
Bah, merci beaucoup pour ces conseils. On sent que cette mission un peu de pédagogie et d'information, vous l'apportez vraiment avec cœur. Et est-ce que vous avez justement dans ce champ-là, là, pour l'instant, vous produisez toute une série de vidéos, il y a le compte Instagram. Quels sont vos projets dans les mois à venir ?
Effectivement, pour l'instant, c'est plus du contenu sur les réseaux sociaux, visuel, parce qu'on est aussi limité par le contexte actuel de pandémie. Mais c'est vrai qu'on a des perspectives pour des actions de terrain. On a mentionné tout à l'heure cette initiative citoyenne européenne pour la fin du shark finning. Et donc, en fait, l'idée, c'est de récolter à travers l'Union européenne 1 million de soutien. Et donc, ça passe par aller à la rencontre vraiment des citoyens, des citoyennes, et pas seulement sur Internet, parce qu'on sait que Instagram, c'est surtout un public de jeunes. Et l'idée, c'est vraiment de parler à tout le monde. Et donc, pourquoi pas aller sur le terrain, mettre une table, un café et inviter les gens à discuter avec nous autour de ce sujet et d'autres sujets. Et puis, on a aussi commencé à enquêter au sein des différentes structures, parce qu'on parle aussi de captivité, parce qu'on est opposé à cette captivité, parce qu'on pense que les animaux n'ont leur place que dans la nature, en liberté. Et donc, on suit des animaux individuellement pour voir si leurs conditions sont respectées et voir comment est-ce qu'on peut leur éviter cette fin de vie en captivité. Donc, c'est plusieurs dossiers sur lesquels on essaie de travailler, et ça se met en place petit à petit.
Des associations, des ONG pour la préservation de l'environnement existent, des très grosses structures. Est-ce que pour vous, créer une nouvelle structure avec une création de contenu, c'est aussi une manière de multiplier les voix et d'essayer de toucher un maximum de personnes ?
Oui, effectivement. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah, il y a déjà Sea Shepherd, il y a déjà Cétacés, donc pas besoin de créer une nouvelle structure, mais le fait de d'en créer une nouvelle avec d'autres codes peut-être de communication, ça permet de toucher le plus de monde possible. Il ne s'agit pas d'empiéter sur les plates-bandes de qui que ce soit, mais vraiment de multiplier les voix pour multiplier nos chances d'aboutir dans nos convictions et dans les projets qu'on porte. Donc oui, effectivement, ça permet déjà de toucher ces premiers cercles, parce que forcément, quand on monte une association, les premiers à nous suivre, c'est la famille, c'est les amis. Et donc, peut-être que ces personnes-là ne se seraient pas intéressées au combat de Sea Shepherd, mais comme ils nous connaissent, ils vont regarder, en parler. Ils vont s'y intéresser, en parler autour d'eux, et c'est comme ça qu'en créant le plus de foyers possible d'associations écologistes ou de collectifs, de mouvements, n'importe quoi, ça permet forcément toujours de contribuer à un combat plus global.
Comment est-ce qu'on peut vous soutenir ? Comment soutenir Sans Océan ?
La première des choses à faire, ce serait de nous suivre par exemple sur Instagram pour pouvoir voir ce qu'on dit sur les océans et sur d'autres questions, parce qu'on parle pas seulement des océans, mais il y a aussi une facette qui s'appelle sang animal, sur lequel on parle d'autres sujets tels que la chasse et les problématiques qui touchent les animaux terrestres. Et donc oui, la première des choses à faire, ce serait de nous suivre, de surtout pas hésiter à nous parler des problématiques que vous connaissez, parce que nous, on est situés en Normandie et en Bretagne, mais il y a des problématiques à laquelle on n'est pas familier. Donc ce serait super de nous en parler, de nous expliquer ce qui se passe pour qu'on puisse communiquer là-dessus aussi et voir ce qu'on peut faire. Et puis, sinon, c'est de soutenir la cause qu'on défend. C'est la meilleure façon de soutenir Sans Océan. Donc, c'est de vraiment s'intéresser au sujet, de remettre en question ces modes de consommation, mais surtout de repenser les modes de production et donc de s'intéresser peut-être à la politique et pas seulement culpabiliser les consommateurs, parce que c'est pas le levier le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on fait sur de plus grosses échelles, donc l'échelle étatique et au-delà. Et puis, on va bientôt mettre en place un système d'adhésion. Et donc, c'est une des manières de nous soutenir pourrait être également financière pour ceux, bien sûr, qui en ont les moyens. Et ça permettrait de devenir membre de Sans Océan et de nous permettre de voir plus grand et de mettre en place des actions plus importantes. Mais pour ça, il faut les moyens financiers.
Emma Fourreau et Iris Demain pour l'association Sans Océan sur l'antenne de Radio U. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour retrouver les productions de Sans Océan, rendez-vous sur Instagram 100.océan et sur la chaîne YouTube 100 Océan, 100 S-A-N-G et Océan, plus loin. Merci encore.
Merci à vous.
Vous écoutez C'est vous qui le dites. Tout de suite, avant de retrouver un nouvel épisode du Littoral Autrement, on écoute Wild Cherry, Play That Funky Music.
Lay down the boogie and play that funky music till you die.
Inédites sur Radio U, c'est presque fini, mais quand même pas tout à fait, puisque c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien, notre série de reportages en coproduction avec la Core Lab. Cette semaine, pour la série Le Littoral Autrement, on s'intéresse à la station marine de Concarneau. Depuis 1859, la station marine est un centre scientifique dédié à la recherche de la faune et de la flore marine. Elle accueille des chercheurs et des chercheuses, mais aussi de nombreux étudiants, notamment autour des questions de l'élevage, des animaux marins et de la préservation des ressources.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Aujourd'hui, nous sommes dans un des nombreux bureaux de la station marine de Concarneau, qui fait partie du Muséum d'Histoire Naturelle. Une station marine a notamment pour objectif de permettre des recherches sur la faune et la flore locale. Aïcha Badou est ingénieure au Muséum d'Histoire Naturelle depuis 30 ans, dont bientôt 10 ans à la station de Concarneau. Elle est spécialisée dans les expérimentations en aquarium et les biomatériaux. Elle nous présente un de ses projets de recherche sur lequel elle travaille.
Il y a une partie, tout ce qui est expérimentation en aquarium, au niveau du mésocosme, que ce soit à la station ou à Plougarneau, par exemple, chez France Aliotis pour le cas des ormeaux, où je fais un dispositif expérimental avec les collègues. On fait le suivi des mesures, on fait les prélèvements. Et de mon côté, je suis donc spécialiste des biomatériaux, donc tout ce qui est en fait biominéral fabriqué par les organismes. Donc par exemple, nous, on est des biominéralisateurs parce qu'on a l'os, on a les dents qui sont des biominéraux. Si vous prenez les ormeaux, donc la coquille, elle est fabriquée par l'organisme. Donc c'est un biomatériau, c'est un biominéral. Donc je suis dans une équipe qui travaille sur l'impact de l'acidification changement global. Donc sur l'acidification des océans. Donc nous, ce qu'on fait, on fait des tests de l'impact de l'acidification sur les ormeaux, puisque les ormeaux, ils ont une coquille qui est calcaire et qui est fragile en fait quand le milieu devient plus acide, pas acide mais plus acide. Et du coup, on travaille sur le stade larvaire, on travaille sur les adultes pour voir est-ce qu'il y a un changement au niveau de la coquille qui est calcaire par un changement de pH et de température.
Et vous en avez trouvé un changement
par rapport aux petits larves, effectivement, il y a un impact.
Il suffit d'une très faible acidification, en fait, pour qu'on voit déjà un impact.
Là, on est en fait déjà une expérimentation au niveau des aquariums. Donc, on ne peut pas transposer à 100% dans un océan qui a déjà des pH qui sont un petit peu différents. Et on prend les extrêmes en général, c'est-à-dire on prend la projection de 2100. Donc on prend vraiment l'extrême pour voir quel est l'impact.
Est-ce que vous pouvez rappeler c'est quoi cette projection ?
On a un pH qui varie jusqu'à 0,3, 0,4 unités. Donc c'est là en fait, il y a les coupes, je les fais ici. Et après il y a... Ça, c'est pour pour polir les échantillons. Donc là, j'arrête. Je mets le disque. Ça, c'est quand je veux faire des analyses dans la technique que je vous ai dit sur les biomatériaux, en fait, infrarouge et rarement, avec des collègues. Il faut que je polisse, sinon on ne peut pas faire la manip. Que vous voyez ici, c'est une coupe de coquille d'ormeau. Donc quand on regarde la coquille, on voit une partie nacrée, on voit la surface qui est un petit peu sombre. Donc la surface sombre, c'est ce qu'on appelle le périostracum, il y a de l'organique dedans. Alors que l'autre partie interne, ces deux parties, en fait deux couches minérales. Et c'est des carbonates de calcium, d'où l'intérêt de travailler pour l'impact de l'acidification. Et quand on zoome en fait dessus, on voit que la couche externe, elle est un petit peu avec des sphérules et qui sont allongées. Et quand vous voyez l'intérieur ici, si on zoome, vous avez des tablettes. Donc c'est des tablettes, vous voyez, c'est comme des parpaings en fait, qui sont superposés, en plus sont décalés comme les murs en parpaings. Et ce qu'on appelle donc cette partie-là, c'est ce qu'on dit, on appelle ça la nacre. C'est un carbonate de calcium qui forme de la nacre. Et nous, ce qui nous intéresse, quand vous voyez les structures, comment ils sont très, 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 très bien organisés, c'est vraiment la fascination de ces organismes, que ce soit microscopique ou macroscopique, comme les ormeaux, là, dans le cas d'ormeaux, qui fabriquent, en fait, du minéral. Mais ils ne fabriquent pas n'importe comment. Il y a une microstructure bien respectée. Et en plus, ils ont un contrôle énorme sur cette structure. Donc, nous, le but, c'est de voir, en fonction de l'environnement, est-ce qu'il y a une modification ou pas de la structure, de la microstructure, parce que là, on est à l'échelle quand même microscopique, au niveau du microscope électronique. Est-ce qu'il y a un changement ou il n'y en a pas ?
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
La station marine de Concarneau, un reportage réalisé par Jeanne de Radio Évasion dans le cadre de notre série de reportages Le Littoral Autrement, une coproduction des radios de la Corlab. Retrouvez un nouvel épisode sur la station marine de Concarneau, demain à la même heure sur nos ondes. C'est vous qui le dites, c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions ce soir Cécile Morel, directrice du service culturel de l'Andivisio, venue nous présenter le parcours d'installation artistique mis en place hors les murs dans la ville de l'Andivisio jusqu'au 2 mai prochain. L'occasion de se balader, de découvrir le travail de sculpteurs et de découvrir au passage quelques lieux emblématiques de l'Andivisio. Hôtel de ville, parvis Yves Keguiner, fontaine Saint-Ivisio et espace culturel Lucien Prigent. Vous retrouverez toutes les informations, rendez-vous sur le-vallon.fr, le site du service culturel de l'Andivisio et sur leur page Facebook. Nous avons également reçu Emma Fourreau et Iris Domain de l'association Sans Océan, une association de sensibilisation à la protection des océans et de la vie marine. Retrouvez-les sur leur compte Instagram 100.océan et sur leur YouTube 100 océan, 100 S-A-N-G. Ce soir, sur l'antenne de Radio U, tout de suite, c'est le Lab U avec un nouveau format, un pas de côté, l'interview d'un enseignant-chercheur sur un ouvrage qui ne fait pas partie de sa discipline, mais qui l'éclaire. Ce soir, Michael Lavenne, juriste enseignant-chercheur au Lab Lex, présentera L'Ordre du Jour, prix Goncourt 2017, un roman d'Éric Vuillard sur la genèse du Troisième Reich, depuis la préparation des élections de 1933 par Hitler jusqu'à l'invasion de la Pologne. À 20h, pas d'invasion de la Pologne, retrouvez Loïc pour l'émission Rock et Boomer. Et à 21h, It's a Live. Ce soir, on se replonge dans les lives de l'Atlantic Jazz Festival, la dernière édition, avec une session des heures magnétiques. Et à 22h, le retour de la playlist. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous sur le 101.1 FM.